J'aimerais parler sur Abraham, l'ami de Dieu, dans Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Car elle eut peur. Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour repartir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. On va arrêter là la lecture. Dans la vie, nous passons parfois par des moments difficiles, des moments de désert, où on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, et ce sont des moments qu'il faut traverser, où on ne comprend pas, où on se pose des questions. Et Abraham était perplexe. Voilà, tellement d'années qu'il avait entendu le Seigneur lui dire, tu auras un enfant par Sarah et ce sera l'origine d'un peuple nombreux. Mais les choses de la vie faisaient que ce n'était pas réaliste. Ça ne s'accomplissait pas. Et ces trois hommes, en fait, vont venir pour fortifier le cœur de son serviteur. Et le point central, en fait, c'est que Dieu désire être l'ami d'Abraham comme Dieu désire aussi être notre ami. Il y a ce parallèle que nous pouvons faire. Voyez, dans Jacques chapitre 2, verset 23, c'est écrit que « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Abraham, l'ami de Dieu. Si Abraham est devenu l'ami de Dieu, c'est pour une bonne raison, c'est la foi. La foi plaît à Dieu, c'est par la foi que l'on peut devenir ami de Dieu. Si nous entretenons le doute, l'incrédulité, les raisonnements humains, charnels, terrestres, qui plaisent aux hommes, bien sûr, parce que dans ce monde, c'est ce type de raisonnement, nous ne pourrons pas être amis de Dieu. Pour être amis de Dieu, il faut déjà apprendre la vie qui plaît à Dieu, c'est-à-dire la vie par la foi. Alors bien sûr, nous sommes chrétiens, nous devons apprendre à vivre par la foi. Alors voilà comment nous pouvons devenir l'ami de Dieu. Devenir l'ami de Dieu, c'est un degré profond de relation personnelle avec Dieu. C'est pas juste un maître lointain que nous servons, mais c'est être l'ami de Dieu. Et ça, c'est pas par hasard. Voyez 2 Chroniques chapitre 20 verset 7. Il y a deux choses qu'on va relever. C'est d'abord que Abraham aimait Dieu et que Dieu aimait Abraham. 2 Chroniques 27. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ce texte nous dit que Abraham avait développé un amour pour Dieu. Et ça, c'est nécessaire si on veut être l'ami de Dieu. C'est d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, mais nous devons d'abord aimer Dieu d'un cœur sincère. Donc il y avait déjà dans le cœur d'Abraham ce désir de plaire à Dieu, non seulement la foi, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? Chercher à l'honorer, chercher à le servir. Donc Abraham aimait Dieu, et c'est dit dans Ésaïe 41:8 que Dieu aimait Abraham. Vous voyez, c'est une relation d'amour. Ésaïe 41:8, mais toi Israël, mon serviteur Jacob que je choisis, race d'Abraham que j'ai aimé. Race d'Abraham que j'ai aimé Abraham. Donc il y a un amour qui s'est établi entre le Dieu très saint et Abraham. Abraham aimait Dieu, Dieu aimait Abraham, mais pour en arriver là, il faut vraiment développer les sentiments qui plaisent à Dieu. Alors que se passe-t-il quand l'amour diminue? Ben, on le dit souvent, l'amour c'est comme un feu. Si on n'entretient pas un feu, il disparaît. Il disparaît. Et certains chrétiens ont connu un amour débordant pour le Seigneur, surtout au début quand ils l'ont rencontré. Ils ont quitté le monde et ses plaisirs, ils sont venus dans les voies de Dieu. Et puis petit à petit, ils n'ont pas entretenu cet amour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, leur amour a diminué, de sorte qu'ils ont perdu la paix, ils ont perdu la joie, ils ont laissé la routine, la lassitude s'installer dans leur vie, ils se sont éloignés de Dieu, et la tiédeur a pris le pas. Abraham n'est pas tombé dans ce piège, il a constamment entretenu son amour pour Dieu et sa foi qui ont permis de tenir toutes ces années dans le service de Dieu. Un premier point, c'est d'abord la visite de Dieu à son serviteur. Dans les premiers versets, on voit trois hommes, mais en réalité, ces trois hommes, il est dit que c'est l'Éternel qui lui apparaît, et trois hommes arrivent. Et on va se rendre compte que ces trois hommes ne sont pas des hommes ordinaires, car il y en a un, c'est une représentation de Dieu lui-même, c'est comme si Dieu vient visiter Abraham sous une forme humaine, et puis les deux autres, si vous lisez la suite, chapitre 19 notamment, vous verrez que ce sont des anges. Ils sont appelés les deux anges. Donc il y avait trois personnes, un qui représente Dieu, et ce sont les deux anges qui vont aller à Sodome et Gomorre. L'Éternel donc vient en personne voir son serviteur. Et le lieu dans lequel il vient s'appelle Mamré. Mamré, ça veut dire en français « vigueur, prospérité ». J'ai pensé à ce verset de Ésaïe 49, verset 29. « C'est Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué. » Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ah, ça, c'est un verset très important. Pourquoi? Parce qu'il démontre que la vigueur et la force, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui va vous donner de la vigueur et de la force. C'est très important, pourquoi ? Parce que le diable, il fait tout pour vous affaiblir. Vous affaiblir moralement, physiquement et spirituellement. Afin que vous n'ayez plus d'élan, plus d'enthousiasme, plus de ferveur, et vous allez vous sentir diminué physiquement, fatigué, et des fois on a une fatigue qui nous tombe dessus. Et la pire des réactions quand on est fatigué comme ça, c'est de se dire, bon, allez, c'est dimanche matin, je me sens un peu fatigué, je vais rester à la maison, comme ça je vais bien me reposer. Erreur. Pourquoi ? Parce que c'est l'Éternel qui donne la force. Et au contraire, quand on vient dans la présence de Dieu, on se connecte à Dieu et on reçoit la force. Un petit peu comme la batterie, vous voyez ? La batterie, quand vous la mettez dans le courant, eh bien, ça y est, ça la régénère. Elle reprend de l'énergie et elle devient à nouveau opérationnelle. Eh bien, quand on vient dans la présence de Dieu, l'erreur est de penser qu'on va se reposer. Non, parce que le repos, c'est Dieu qui le donne. C'est pas juste physique, comprenez ? Le diable, il fait tout pour nous fatiguer, nous abattre, nous décourager, et nous croyons qu'on va, en se reposant physiquement, on va avoir la vigueur et on va avoir la force. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est dans la présence de Dieu qu'on va recevoir la vigueur et la prospérité. Et quand on a compris ça, alors on y va, par la foi. Et on est renouvelé dans sa présence. Oui, on peut avoir des moments de fatigue. Oui, on peut avoir des moments où le moral est au plus bas. Oui, on peut avoir des moments où on est attaqué spirituellement. Mais dans ces moments-là, comptons sur celui qui renouvelle nos forces. Il augmente la vigueur. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui va le faire. Il va augmenter la vigueur. Il va renouveler nos forces pendant la marche. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas laisser l'accès à l'ennemi et rester à terre, un petit peu comme Élie l'a fait à un moment donné. « Seigneur, je n'en peux plus de la vie, reprends-moi, c'est fini. » Et non, 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 l'ange avait un autre plan. Dieu a envoyé son ange pour dire « Allez, Élie, tu manges cette nourriture, bois cette eau. » Et avec la force que lui donna cette nourriture, il put reprendre la marche 40 jours, 40 nuits. Dieu a un autre plan. Il était démoralisé spirituellement, il était physiquement abattu, il pensait à la mort, mais la source de sa force, il l'a pas trouvée dans les choses de ce monde, c'est la parole de Dieu en lui, c'est la nourriture de Dieu en lui qui lui a permis de repartir. Je prends quelques exemples de personnes qui nous ont précédés. Moïse. Vous savez jusqu'à quel âge a vécu Moïse ? Ah, je vous pose une question. Ah, mais j'ai pas le temps de finir la question, Philippe, il a déjà la réponse. 120 ans tout rond. C'est un âge honorable. 120 ans. Et regardez Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça nous donne de l'espoir. Mais pourquoi? Parce que sa vigueur, sa force, sa vue, les forces spirituelles, en fait, c'est Dieu qui lui donnait. C'était surnaturel. On voit bien que c'était pas humain. C'est Dieu qui a permis cela. Vous savez, si on remonte quelques siècles en arrière, au XVIIIe siècle, l'espérance de vie n'était que de 25 ans. L'espérance de vie. Elle a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on est presque dans les 80 ans, 90 ans. Et les scientifiques se projettent sur les siècles à venir. 150 ans d'espérance de vie dans les siècles à venir. Voire, certains espèrent encore aller plus loin. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous donne la force. C'est pas nous, frères et sœurs. Laissons-nous remplir de la présence de Dieu et nous aurons la vigueur. Et la vigueur, elle est spirituelle, elle est physique, elle est morale et elle vient de Dieu. Mais je vous donne un autre exemple, c'est celui de Caleb. Caleb, qui avait quand même un âge honorable de 85 ans quand il est rentré dans le pays de Canaan. Pourquoi 85 ans? Parce que quand il en avait 45, il a voulu rentrer dans le pays avec Josué, et les 10 espions ont dit « Non, 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 ils sont plus forts, ils sont plus nombreux, on n'y arrivera pas. » Et à 10, ils ont réussi à contaminer tout le peuple. Et les deux seuls qui sont restés fidèles, Josué et Caleb, n'ont pas pu rentrer. Donc ils ont tourné 40 ans dans le désert, mais Dieu leur a dit, vous, vous entrerez. Les autres qui n'ont pas cru, ils n'entreront pas. Vous voyez la foi ? La foi vous ouvre des portes, mais l'incrédulité vous ferme des portes. L'incrédulité des 10 a fermé pour eux le pays promis. La foi des deux, Josué et Caleb, a ouvert les portes du pays promis. Les deux seuls qui sont rentrés, mais du coup, au lieu d'avoir 45 ans, il en avait 85, 40 ans de plus. Et j'aime bien cette parole quand il voit Josué, parce que une chose est d'entrer dans le pays de Canaan, mais autre chose est de conquérir le pays. Parce que dans le pays, en fait, il y avait plein de peuples. Il y avait 5 peuples qui étaient là installés, avec des villes fortifiées. Et qu'est-ce que dit Jacob, qui a quand même 85 ans? Il dit « Je suis encore vigoureux ». Mais ça, c'est Dieu qui lui a donné la vigueur. Pour à 85 ans, être vigoureux, ça vient de Dieu. Comme au jour où Moïse m'envoya, il revient 40 ans en arrière, vous voyez. Il a 85 ans physiquement, mais 45 dans sa tête. Comme au jour où Moïse m'envoya, il avait 45 ans. Il s'y voit encore, il se voit à 45 ans. Et vous savez qu'on devient vieux déjà dans sa tête? Il y a des gens à 30 ans, ils sont déjà vieux. 40 ans, ils sont vieux, parce que dans leur tête, ils sont déjà vieux. Et puis, il y en a à 60 ans, ils sont toujours jeunes. Il y a une grande part de psychologie, de comment on se voit, de comment on, aussi comment on croit. Et on voit que c'est Dieu qui va permettre que cet homme, Caleb, soit encore vigoureux. Et il a encore envie de combattre. Moi, j'aime beaucoup ce Caleb parce que, vous voyez, il y en a qui se disent, oh là là, bon, maintenant je suis âgé, je vais me reposer, je vais arrêter. Voilà, je vais prendre mes distances. Non, il dit, donne-moi cette montagne. Il y a encore des Anakim. Alors des Anakim, c'est des géants, c'est les plus costauds. Il a choisi l'endroit le plus difficile. Il a dit, donne-moi cette montagne. Et puis il termine par une note positive. Il dit, et je les chasserai. Il a 85 ans. Et c'est Dieu qui lui donne la vigueur. Il voit là des géants qui sont plus grands que lui, plus forts que lui. Il dit, mais moi je les chasserai. Ce qui montre que chez cet homme, 85 ans, il est toujours dans la foi. Il n'a pas baissé dans la vigueur, dans la prospérité, parce que c'est Dieu qui est la source de notre vigueur. Voyez, vous pouvez à 40 ans ne plus avoir envie de vous battre, laisser tomber, abandonner, et à 85 ans, si vous avez le Seigneur avec vous, rempli de vigueur pour dire « je vais encore combattre ». Il y a encore des batailles spirituelles à remporter, il y a encore des âmes à sauver, je vais encore prier pour ma famille, je vais encore prier pour mon enfant, je vais prier encore pour mes petits-enfants, 85 ans, les petits-enfants, peut-être ses arrière-petits-enfants. Il y a encore des combats spirituels, et ça ne dépendra pas de votre âge, ça ne dépendra pas de vos forces, parce que peut-être vous vous sentez faible, ça ne dépendra pas de vos capacités, mais ça dépendra de l'Éternel sur qui nous nous appuyons ce soir. Il est la source de notre vigueur. Alors, Dieu apparaît à Abraham sous la forme de trois anges. On en a parlé. Le Seigneur apparaît encore aujourd'hui sous forme de vision, notamment. Le Seigneur est capable de se manifester, mais c'était le premier point. C'est la visitation de Dieu. Deuxième point. Tout de suite, on voit qu'Abraham va développer la communion avec Dieu. Premier point, la visitation de Dieu. Dieu qui donne la vigueur à Mamré. Mamré, c'est pas un lieu, vous voyez, c'est pas n'importe où. C'est le lieu de la vigueur, de la prospérité. C'est là qu'il a planté ses tentes. Et tout de suite, il cherche la communion avec ces trois hommes. Il discerne que derrière, il y a Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui parle. Quand ces hommes parlent, c'est l'Éternel qui parle. C'est comme ça dans la Bible. Donc, il a du discernement spirituel. Et il va prendre un repas. Et j'ai remarqué que ce repas, il prend le meilleur. Il prend pas le truc qui est au frigo depuis 3 jours. Vous voyez. Il va aller chercher un chevreau, là. Et la Bible dit qu'il est tendre et bon. Un tendre et bon chevreau. La meilleure qualité. Il va chercher quelque chose qui lui coûte, en fait. Qui lui coûte, mais pour honorer Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur. Pas avec les bouts de chandelle, les choses à moitié faites, mais le faire avec des choses qui honorent Dieu et qui ont de la valeur. Et il sait ce qu'il fait. Il prend ce qui est le meilleur, la meilleure part. David était dans le même esprit. Lorsque, vous savez que David n'a pas toujours été très très obéissant. Un jour, il a fait le dénombrement du peuple d'Israël. Il n'avait pas le droit de le faire, il l'a fait quand même. Et il y a une peste qui est survenue dans le pays. Mais David avait toujours cette particularité, c'est que, bon, il faisait beaucoup d'erreurs, mais à chaque fois, il se tournait vers Dieu en repentance. Il a demandé pardon à Dieu, et il a dit, pour demander pardon à Dieu, je vais acheter un terrain à Onan, qui était donc un Israélite. Il a bâti là sur ce terrain, enfin, il a d'abord acheté le terrain, et Onan, il disait, mais moi, je te l'offre le terrain, je te l'offre. Pas besoin de l'acheter, je te l'offre. Et c'est vrai que David était roi, donc on peut dire il était le roi du pays, donc tout lui appartenait dans le pays. Donc il aurait pu dire, bah oui, tu me l'offres et je vais bâtir là. Mais il dit non. Il dit, je n'offrirai pas à Dieu un holocauste qui ne me coûte rien. Je vais le payer à son prix. Voyez le raisonnement? Je vais le payer. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a voulu honorer Dieu, il a voulu faire les choses correctement, et ça lui a coûté. Il est allé chercher le meilleur, un bon terrain, qu'il a payé au prix fort, qu'il a donné à Onan, et là il a bâti son autel et il a offert un holocauste pour demander pardon à Dieu. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel Abraham, David, on sait que pour Dieu, on ne fait pas les choses médiocres, on fait les choses correctement, du mieux possible. Et puis, ce repas qui est très bon, il y a un gâteau, j'ai pas tout dit, mais il y a du pain, il y a des gâteaux, il y a plein de sortes de plats qui sont là. Mais si vous regardez ce que Jésus a fait, c'est dans Jean 15, verset 14, lorsque Jésus a rassemblé ses disciples pour la dernière Pâque, là aussi, il les a appelés mes amis. Parce que c'est ici qu'on voit qu'Abraham est appelé l'ami de Dieu. Eh bien, dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis », c'est Jésus qui parle aux disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » De même que Dieu voulait développer cette amitié avec Abraham, de même Jésus veut développer cette amitié avec ses disciples. Et de même, Jésus veut développer une amitié avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus, c'est notre maître. Nous, on est des disciples. Mais on doit apprendre à développer une relation de proximité. La Bible dit que Jésus voulait les avoir avec lui, du cœur à cœur. Il leur a partagé son cœur. Il a développé cette relation forte, spirituelle, pour passer du stade de serviteur à celui d'ami. Dieu ne désire pas que nous restions que des serviteurs. Bien sûr, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu en tant que chrétiens, mais il désire avoir cette relation de proximité. C'est pour ça que Paul dit, un peu dans une épître, Philippiens 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Comment est-ce que vous connaissez les sentiments qui sont en Jésus-Christ ? Par une relation d'amitié. Et vous allez développer des sentiments. Ah, je commence à ressentir qu'est-ce que Jésus ressent. Parce que vous avez développé une relation d'amitié. Et quand vous êtes ami avec quelqu'un, vous ressentez ce qu'il ressent. Mais si c'est juste un maître et que vous êtes en serviteur, c'est une manière de servir qui existe dans la Bible. Vous la retrouvez par exemple dans l'attitude du frère du fils prodigue, celui qu'on appelle le frère aîné, celui qui s'est pas perdu, qui est resté à la maison. Lorsque le fils cadet, lui qui s'est égaré, qui a vendu tout son argent, enfin qui a perdu tout son argent dans la débauche avec les prostituées, il a tout perdu, il est revenu à la maison, le père l'a accueilli, et le père, pour l'honorer, a tué le veau gras. Et le fils aîné, lui, était dans les champs. Et on voit très bien son attitude, comment il servait son père. Il le servait comme un maître. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'on a tué le veau gras? Alors que pour moi, ça fait des années que je te sers, il dit à son père, ça fait des années que je te sers, moi, et jamais tu m'as offert un chevreau ou un animal comme tu le fais pour lui, ton fils. Alors il dit pas mon frère, il dit ton fils qui lui est allé dépenser tout l'argent avec les prostituées. Il sert donc dans la maison du père comme un esclave. Ça, c'est une mentalité qui plaît pas à Dieu. Ça plaît pas à Dieu. C'est pas l'attitude du serviteur qui doit développer une relation d'amour avec son maître. Et on voit que le fils aîné n'aime pas son père. Et on retrouve cette même attitude. Vous savez, dans la parabole des talents, il y en a un, il reçoit un seul talent, il va le cacher dans la terre. Et quand le maître vient faire rendre des comptes à ses serviteurs, il dit, ben moi, je savais que tu es un homme dur. Voilà comment il parle à son maître. Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas vanné. Je suis allé cacher mon talent dans la terre. Maintenant, récupère-le. Et quelle était l'attitude profonde de ce serviteur? Il servait comme un maître dont il avait peur, mais il n'avait pas développé cette confiance, cette relation d'amour, ce que Dieu veut en fait, être ami de Dieu, avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et le maître est très sévère, il dit, toi tu es un méchant serviteur, tu aurais dû mettre à la banque ce talent pour qu'il produise des intérêts, maintenant il est sanctionné. Donc, des amis, c'est un stade que nous devons atteindre, mais c'est pas systématique. Il y a beaucoup de gens qui sont encore au stade de esclaves. Je sers un maître, ils voient Dieu comme dur, ils voient Dieu comme lointain, mais ils n'ont pas encore, ils sont pas devenus les amis de Dieu ou les amis de Jésus comme Jésus le fait avec ses disciples. Troisième point, c'est la toute connaissance de Dieu après le temps de communion, de ce repas, de ce temps où on développe vraiment cet amour, et il démontre que ça lui coûte, il donne pour il honore Dieu par ce repas. Et bien, immédiatement, il y a des paroles de connaissance, c'est-à-dire que il lui dit, donc c'était les trois hommes, mais c'est l'Éternel qui parle, « Où est Sarah, ta femme ?» Donc là, c'est la toute connaissance de Dieu, c'est-à-dire, ils savent de suite le nom de Sarah. Il n'a pas demandé comment s'appelle ta femme, il dit, où est Sarah ta femme? Ils savent qu'elle s'appelle Sarah et que elle est là quelque part. Donc, ça montre quoi? Ça montre que Dieu nous connaît par notre nom. Où est Sarah ta femme? Dieu vous connaît par votre nom. Il a un plan pour chacun de nous. Nous ne sommes pas des anonymes. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Eh bien, le Seigneur nous dira la même chose ce soir. Je t'appelle par ton nom. C'était Sarah, mais il vous appelle par votre nom parce que vous avez de la valeur pour Dieu. Les hommes donc connaissent Sarah. Ils annoncent que Sarah, dans un an, aura un enfant. Sarah n'est pas là, mais elle entend la conversation et dans son cœur, elle rit parce qu'elle dit, mais naîtrait-il un enfant à moi qui suis âgé? Elle avait 90 ans, donc c'était pas possible. Et comme personne peut la voir, elle rit dans son cœur. Sauf que Dieu voit tout, et Dieu entend tout. Il entend même nos pensées. Il y a un verset qui dit, c'est dans le psaume 139, que la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc il connaît même, il devance même nos pensées, nos paroles. Déjà, avant de parler, c'est dans nos pensées. Et Dieu la connaît déjà. Psaume 139, verset 1. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. » Donc Dieu sait tout. « Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. » Alors, quelle est la réaction de Sarah quand elle se sent dévoilée? Eh bien, elle ment. Elle dit « Non, 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 je n'ai pas ri. » Et c'est étonnant, mais c'est un défaut que nous avons, même nous les croyants, c'est que nous mentons facilement. Elle ment facilement. Et elle ment à Dieu. Elle ment à Dieu. Les croyants mentent facilement, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous voyez ça dans la Bible, à plusieurs endroits. Abraham lui-même, il demandait à sa femme de mentir, à plusieurs endroits. Il lui dit, dis plutôt que tu es ma sœur, pour que les gens m'épargnent dans ce pays. Deux fois il lui a fait le coup, deux fois il a fait mentir Sarah pour lui. Il mentait. Il y a d'autres croyants qui ont menti, comme Géasi, qui était quand même un serviteur du prophète Élisée. Il mentait. Il dit, donc là, il y avait un homme, un général syrien Naaman, qui avait été guéri de la lèpre. Il repartait dans son pays et il va lui mentir en disant, mais mon maître Élisée n'a rien pris de tous les cadeaux que tu voulais lui donner, mais justement, il y a des gens qui viennent d'arriver, des fils des prophètes, et il faudrait leur donner un talent d'argent et des tuniques. Et il ment. Et puis il prend tout l'argent, Géasi, sans scrupule. C'est un croyant, hein. C'est un croyant qui connaît Dieu. Mais vous trouvez ça même dans l'Église. Les gens mentent. Incroyable. Dans l'Église, vous avez Ananias, Saphira, ils ont menti. Ils ont menti sur une fausse déclaration sur un prix d'un champ. Les croyants sont contaminés par le mensonge. À plusieurs endroits, et c'est quelque chose qu'il faut faire sortir de notre tête, de notre esprit, de notre cœur, qui n'est pas de Dieu, qui nous pousse à tromper. Et c'est quelque chose qui ne peut pas plaire à Dieu. Et toujours, il y a eu des sanctions concernant ces mensonges. Vous voyez, si vous lisez la fin du verset 15, Sarah mentit en disant « je n'ai pas ri », mais qu'est-ce que dit Dieu ? Car elle eut peur, mais il dit « au contraire, tu as ri ». C'est-à-dire que Dieu ne passe pas sur le péché. Vous pouvez dire « non, j'ai pas péché, j'ai pas menti ». Au contraire, Dieu dit « tu as ri ». Et on peut pas tromper Dieu. Elle aurait pu les tromper si c'était que des hommes, si c'était trois hommes, comme elle pensait peut-être. Mais Dieu, on peut pas le tromper. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est maintenant la réalité visible. C'est à partir du verset 11. La Bible dit qu'ils étaient vieux, donc Abraham et Sarah, ils étaient vieux, avancés en âge, sans espoir d'avoir d'enfant. Et donc, la pensée d'avoir un enfant était éloignée de leur esprit, à des années-lumière. Et puis, si ils se nourrissaient l'esprit du verset 11, c'est pour ça que c'est très important, frères et sœurs, de nous nourrir l'esprit des promesses de Dieu et non pas de ce que nos yeux nous montrent. Verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Ça, c'est factuel. C'est un petit peu comme le diagnostic du médecin qui vous dit, voilà, monsieur, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas. Vous êtes malade, vous n'allez pas vous en sortir. Si Abraham et Sarah s'étaient nourris l'esprit du verset 11, c'est-à-dire c'est vrai, on voit bien qu'on est vieux, on est très avancé en âge, on ne peut plus espérer avoir d'enfant. S'ils se nourrissaient l'esprit de ces choses qui sont vraies sur le plan physique, ben c'est ce qu'ils auraient vécu finalement sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas eu d'enfant, ils auraient été stériles, ils n'auraient pas développé la vie de Dieu. Mais Abraham, par la grâce de Dieu, a développé une autre attitude, vous la trouvez dans Romains chapitre 4, verset 19, et c'est celle-ci qu'il nous faut saisir. C'est ne pas s'arrêter à ce que le verset 11 nous montre avec nos yeux, mais de passer dans Romains 4, 19, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, ses yeux lui montrent, ton corps est usé, tu t'en sortiras pas, tu n'y arriveras pas. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant, ça c'était bien le verset 11 qu'on a lu, mais il ne considéra point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. J'aime bien la version Darby. Il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti. Donc il avait bien amorti déjà son corps. C'était bientôt la fin. Donc quand vous voyez ça humainement parlant, vous vous dites, mais Abraham, non. Non, t'aurais, à la limite, t'aurais 70 ans de moins à la limite. À 100 ans, c'est pas possible. Et si Abraham lui-même s'était entretenu, mais c'est vrai, ce qu'ils me disent mes amis, c'est pas possible, eh ben, il n'aurait jamais vécu le miracle. Mais Romains 4, 19 dit, sans, il ne considéra point. Et c'est ça le secret d'Abraham, si vous voulez, qui doit être le nôtre, le secret du croyant, c'est de ne pas nous laisser infecter par la vue, mais de développer une vision de foi. Et c'est comme ça qu'il est entré dans le domaine du miracle. Abraham ne s'est pas laissé contaminer par les circonstances, il avait une considération plus élevée, c'est de dire la promesse de Dieu est plus importante à mes yeux que ce verset 11, « Je suis vieux, je ne peux plus espérer d'avoir d'enfant, c'est la réalité factuelle ». C'est le rapport médical qui indique que ce ne sera pas possible. Et si vous mettez foi dans ces choses-là, ben vous vivrez ces choses-là. Vous vous arrêterez à ces choses-là. Et vous ne vivrez pas la pleine bénédiction, comme c'est le cas d'Abraham. Il a choisi un autre chemin. celui de la foi, de croire dans l'impossible. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il est devenu le père des croyants, parce qu'en fait, il a appris à développer la foi. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas apprendre à l'école. Enfin, vous avez déjà pour la plupart terminé l'école, à part peut-être quelques-uns qui sont encore en faculté. Mais à l'école, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend les choses qui fonctionnent dans le monde. On apprend que tout vient du hasard, que voilà, l'univers existe parce que il y a des lois physiques, on vous explique tout, humainement. Mais il y a une autre école qui est indispensable, c'est l'école de la foi, c'est l'école de Dieu. Et vous l'apprendrez pas à l'école, le parcours scolaire, ils vous parleront pas de la foi. Mais par contre, dans la parole de Dieu, si vous suivez les traces d'Abraham, Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a fait l'école de Dieu. L'école de Dieu. Il a pas juste appris les choses pour fonctionner dans le monde, il a appris comment ça fonctionne au niveau des choses de Dieu. Et cette école-là, si vous ne voulez pas la faire, si vous ne la faites, vous ne pourrez pas avancer. Vous serez bloqué au niveau maternel. Vous n'arriverez pas à accéder aux études supérieures. Il faut la foi. Il faut développer, apprendre les choses de la foi. Je termine avec un dernier point. La toute-puissance de Dieu se manifeste. Au verset 14. Verset 14, il dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Ah, ça c'est extraordinaire. Il n'y a aucun obstacle qui est trop puissant pour Dieu. Pour l'instant, la situation est bloquée. C'est comme la mer rouge qui vous empêche de passer. C'est comme Goliath qui est là, qui vocifère contre le peuple d'Israël. Il n'y a qu'un petit David pour le confronter. Mais non. Il y a deux possibilités. Soit on fait demi-tour et on dit c'est pas possible. Soit on dit, par la grâce de Dieu, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? Par la grâce de Dieu, c'est possible. Il va se passer quelque chose. Et Abraham persévère là-dedans. Ne perdez jamais de vue la toute-puissance de Dieu. C'est d'ailleurs le verset, j'aime bien ce verset, Luc 1, 37, c'est le verset de l'ange Gabriel à Marie. Marie dit, mais comment est-ce que ça peut se faire ? Je ne suis que fiancée. L'ange vient de lui annoncer, tu vas avoir un enfant. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà, c'est bien résumé. Je pense que c'est un verset qu'on devrait apprendre par cœur. Car rien n'est impossible à Dieu. Nourrissons-nous de ces versets. Voyez, si Abraham était resté au verset 11, il se serait arrêté là, mais il se nourrissait d'autre chose. Car rien n'est impossible à Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Et il nourrissait son cœur de ces choses. Donc, nourrissez-vous des promesses de Dieu. Attachez-vous au Seigneur. C'est comme ça que Paul faisait. Alors, un jour, il a été piqué par une vipère. Et les gens, c'était dans l'île de Malte, les gens s'attendaient à le voir mourir sur place. Mais lui, il a refusé. Il a dit non. Il s'attendait à Dieu. Il aurait dû mourir. Mais non. Parce que sa vie est entre les mains de Dieu. C'est pas les hommes. C'est pas ce qu'ils disent. Il a secoué la vipère qui ne lui a fait aucun mal. Les gens ont cru qu'il était un dieu, tellement c'était miraculeux. Non, il a dit, je suis pas un dieu, c'est Dieu qui fait le miracle. Mais à ce moment-là où il était piqué, en fait, il y avait dans son cœur les promesses de Dieu. Par exemple, quand Jésus a dit que vous marcherez sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi. Il nourrissait son cœur des promesses. Si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera point de mal. Il n'y a pas de difficulté trop grande pour Dieu. On va prier quelques instants. Et j'aimerais qu'on puisse, comme Abraham, développer la foi pour devenir des amis de Dieu, comme amis de Jésus. Il a voulu que ses disciples soient ses amis. Dieu a voulu qu'Abraham soit l'ami de Dieu, son ami. Eh bien, le Seigneur veut ce soir que nous puissions vivre aussi comme des amis. Pas des serviteurs qui le craignent, qui n'ont qu'une relation lointaine avec lui, mais développer vraiment cette communion, ces sentiments qui étaient en Christ. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, pour l'exemple de cet homme de Dieu, cet homme de foi qui nous a précédés, qui est devenu le père des croyants, que tu as fortifié toi-même alors qu'il était bien âgé, bien fatigué, moralement, physiquement, spirituellement, et toi tu as été sa vigueur, tu as été sa force dans les moments difficiles. Tu l'as renouvelé, Seigneur, et merci pour l'exemple de foi qu'il a démontré alors qu'il avait toutes les bonnes raisons d'arrêter, alors qu'il avait toutes les bonnes raisons de tourner cette page, de retourner en arrière, de tout lâcher. Seigneur, il a persévéré par la foi, il n'a pas considéré que même son âge était un handicap, que sa femme était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, qu'elle était trop âgée pour avoir des enfants, quand bien même elle n'aurait pas été stérile. Il n'a pas considéré ces choses comme un handicap, mais il a cru. Et par-dessus tout, il a vécu le miracle auquel il s'attendait. Seigneur, nous voulons ce soir nous attendre au miracle, nous attendre de ta part à des grandes bénédictions. Viens visiter encore ton Église, viens fortifier ton peuple, et que dans le nom de Jésus, il y ait encore des signes, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur, Jésus. Amen.